les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les homosexuels dans le regard des autres. Un an après le Pax et 13 ans avant le mariage pour tous, c'était le titre de l'émission « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannet du 2 décembre 2000. Il recevait l'historienne Florence Tamagne, auteure d'une histoire de l'homosexualité en Europe, et le journaliste Frédéric Martel, qui signait, lui, « Le rose et le noir », une chronique des homosexuels en France depuis 1968. Mettant en parallèle les années de l'entre-deux-guerres et celles de l'après-guerre sur le vieux continent, plus précisément en France, en Allemagne et en Angleterre, ils proposaient ensemble une évocation de la lente émergence d'une identité homosexuelle reconnue et acceptée.
Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici à peine plus d'un an que le Pax a été voté par le Parlement français. Le pacte civil de solidarité, qui est un texte historique, un texte qui a reconnu dans la loi pour la première fois la vie de couple homosexuel. Et cet anniversaire a été l'occasion dans toute la presse d'un bilan d'étape. On y trouve divers efforts de synthèse sur la profonde évolution de la situation de l'homosexualité dans la société française, sur le recul de la haine et des préjugés, sur les progrès de la tolérance, dont les sondages offrent, entre autres, ces temps-ci, un reflet remarquable. Or, il se trouve qu'en Europe occidentale, après les féroces répressions légales et sociales du XIXe siècle, on avait pu saluer une première fois des victoires sur l'intolérance au cours du premier tiers du XXe siècle, et en particulier dans les années 20, jusqu'à ce que la montée du totalitarisme nazi et de ses alliés vienne remettre tout cela brutalement en cause. Deux livres récents invitent à un rapprochement entre ces deux moments de l'histoire. J'ai souhaité provoquer à ce micro un dialogue entre leurs auteurs. D'un côté, Florence Tamagne, qui nous donne une histoire de l'homosexualité en Europe avec un sous-titre « Berlin, Londres, Paris, 1919-1939 ». Et de l'autre, Frédéric Martel, qui réédite en collection de poche, complétée et mise à jour, son livre intitulé « Le rose et le noir, les homosexuels en France depuis 1968 », un livre qui avait été publié en 1996 et fort remarqué.
Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Regardons autour de nous comme chaque amour va son propre pas. Le berger doit suivre ses chèvres, le chasseur la biche aux abois, et le dévot pose ses lèvres sur de simples morceaux de bois. Un monsieur aimait un jeune homme, cela n'a rien que de banal. Les habitués des hippodromes font des folies pour un cheval. Et je dis qu'ils vivaient ensemble, ensemble une même maison. C'était plus commode, il me semble, si c'est vrai, ils avaient raison. Un monsieur aimait un jeune homme, méprisant toute précaution. Ils allaient dans les vélodromes, le vélo c'était leur passion. Ces spectacles font d'habitude moins de victimes que l'alcool. Combien pousse la turpitude jusqu'à hanter les music-halls. Un monsieur aimait un jeune homme, il lui payait tous ses cahiers. Le monsieur était économe, le jeune homme était écolier. Il lui payait aussi ses livres, lui donnait parfois quelque argent. Il en faut bien un peu pour vivre, vivre. Laissons vivre les jeunes gens. Un monsieur aimait un jeune homme. Ils marchaient la main dans la main. Ils s'en allèrent jusqu'à Rome, par les détours et les chemins. Et là, presque aux yeux de Saint-Pierre, en visitant le Colisée, alors n'en faisant plus mystère, ils échangèrent un baiser. Où croyez-vous que nous en sommes? Jusqu'où nous conduisent nos pas? Un monsieur aimait un jeune homme. Il est si doux d'être papa.
C'était Juliette Gréco, Le Monsieur et le Jeune Homme, une chanson de Guy Béard, 1963. Florence Tamagne, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc parler des homosexuels dans le regard des autres, en comparaison entre ces deux périodes. Je lis dans votre livre, Florence Tamagne, que 1869 a été une date majeure, puisque c'est à ce moment-là, semble-t-il, que pour la première fois, le terme homosexuel a été employé par un journaliste hongrois du nom de Károly Mária Kertbeny, dans un mémoire qui réclamait l'abolition des lois pénales sur les actes contre nature. Vous dites que c'est un moment important.
Oui, enfin c'est surtout une date symbolique, parce que l'on ne peut pas dire que c'est en 1869, bien sûr, que l'histoire de l'homosexualité est née.
Bien sûr.
Mais
nous ne remonterons pas très loin en arrière, nous pourrions le faire.
Oui.
Bornons-nous à nos deux siècles.
Eh bien, en 1869, on voit se développer à la fois un mouvement de la part de certains homosexuels allemands en faveur de la reconnaissance de leurs droits, d'où ce mémoire du journaliste Kertbeny auprès du ministre de la Prusse afin d'abolir ce qui n'est pas encore le paragraphe 175 dans la législation prussienne qui condamne les actes homosexuels.
Du code pénal, ce paragraphe 175,
voilà,
du code pénal allemand.
En 1872, donc cet article qui à la base fait partie de la législation prussienne va être étendu à toute l'Allemagne. Et véritablement, le mouvement homosexuel allemand va se former en réaction à la répression homophobe à cette époque.
Mais vous nous dites qu'en somme, on parle des sodomites comme criminels contre Dieu, et plutôt désormais de l'homosexuel qui sont éventuellement coupables contre la société.
Oui, donc le sodomite criminel contre Dieu, il est clair que l'homophobie dans la société trouve son origine dans la condamnation biblique des actes contre nature, notamment les références assez peu claires d'ailleurs à Sodome et Gomorre. Et la sodomie était au départ un crime puni par l'Église. Et ce que l'on constate à partir du XIXe siècle, c'est que l'on abandonne l'accusation de sodomie pour la condamnation de l'homosexualité, qui est cette fois-ci un crime social.
Cela étant dit, l'Église continue d'être en pointe dans le combat homophobe, en tout cas dans le combat de la lutte contre la reconnaissance de l'homosexualité comme légitime. Frédéric Martel, aujourd'hui encore, c'est une force qui vous paraît importante?
Ce qui est très frappant, c'est que l'Église a été à la fois la structure qui a le plus, sans doute, dit, répété combien l'homosexualité était quelque chose de condamnable, et en même temps, on peut prendre l'histoire de la défense des droits des homosexuels comme partant également de l'Église, puisqu'au fond, la plupart de ceux qui, dans les années 60, 50, avant, 70, vont commencer à parler, sont la plupart du temps des gens qui sont croyants. Je pense sous des formes diverses, hein. Je pense à des gens comme Gide, comme Julien Green, comme Monterland, sous d'autres formes, comme Marcel Jouandeau, beaucoup d'autres auteurs qui, dans ces époques-là, sont des croyants. Et la première grande association française, le premier mouvement homosexuel qui commence dans les années 50, est un mouvement où à la base sont des séminaristes et des religieux, et restera très longtemps marqué par le catholicisme. Donc c'est à la fois là que se trouve l'homophobie, c'est aussi là où se trouve la première réaction et la première lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, il est évident que la parole de l'Église est beaucoup moins forte, même si dans les années 80, il y a évidemment eu un certain nombre de paroles très dures, et notamment à propos du sida, mais effectivement, les choses sont moins graves aujourd'hui.
On se rappelle le propos d'un archevêque de Strasbourg, Mgr Elchinger, qui parlait en 1982 des homosexuels comme des infirmes. Ça avait beaucoup frappé l'opinion. Mais revenons à avant 1914, Florence Tamagne. On est frappé de voir la différence des législations répressives d'un pays à l'autre. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France.
Oui, donc on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. En Allemagne, la loi, donc le paragraphe 175, condamne les actes ressemblant au coït entre hommes d'une peine pouvant s'élever jusqu'à 5 ans de prison. Il semble que cette législation est portée à confusion, car déjà actes ressemblant au coït, c'est quelque chose qui est assez mal défini. Et la jurisprudence a montré une tolérance relative, en tout cas, vis-à-vis des actes commis en privé. En Angleterre, la loi se modifie en 1885 avec l'amendement Labouchère, qui paraît extrêmement sévère puisqu'il punit tout acte sexuel entre hommes, donc même la masturbation, d'une peine pouvant s'élever jusqu'à 2 ans de prison. Il faut voir qu'il s'agit d'un allègement, en fait, puisque jusqu'en 1861, l'homosexualité était punie de mort en Angleterre, et qu'à partir de 1861, cette peine est allégée.
Et, il y a des cas d'exécution ?
Il y a eu des cas d'exécution, mais jusqu'au XVIIIe siècle. Ensuite, la peine est finalement abandonné. À partir de 1861, donc l'homosexualité peut être punie de 10 ans de prison jusqu'à la perpétuité. Donc l'amendement Labouchère semble un progrès. En même temps, la répression va s'intensifier et il va y avoir beaucoup plus de poursuites pour homosexualité à partir de cet amendement qu'auparavant.
Un contraste frappant avec la France, puisque depuis le code pénal de l'époque impériale, dont le rédacteur Cambacérès était d'ailleurs lui-même homosexuel, depuis ce code pénal, l'homosexualité n'est pas considérée en France comme un délit.
Et finalement, l'abandon de la législation homophobe est une conséquence directe de la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas punir un crime où il n'y a pas de victime. Et dès les lois révolutionnaires de 1791, la législation anti-homosexuelle est abandonnée en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de surveillance, plus ou moins officieuse, des homosexuels.
Et d'ailleurs, on retrouve dans les années 60 et 70 et 80 des combats législatif important dans ce domaine, Frédéric Martel.
Ce qui est frappant entre la période qu'a étudiée Florence Tamagne et la mienne, c'est qu'en même temps, on a constamment des flux et reflux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on pourrait croire que depuis la Révolution française, il y a une longue marche vers la libération qui se terminerait dans les années 80 par l'ouverture des bars fêtés triomphalement. En fait, c'est pas exactement ça, puisque constamment, il y a des allers-retours qui sont liés à d'autres éléments, évidemment, de l'histoire de France, en fonction de guerre ou en fonction de certains des différences politiques.
Ça évoque plutôt les pèlerins d'Echternach, vous savez, au Luxembourg, qui vont vers le sanctuaire, deux pas en avant, un pas en arrière.
C'est un petit peu comme ça que se fabrique effectivement la dépénalisation, pour aller vite. On retrouve une loi qui discrimine fortement les homosexuels sous Vichy, ce qui a priori n'est pas étonnant, en 1942, par une ordonnance du maréchal Pétain. Mais paradoxalement, alors que la 4e République va prendre beaucoup d'attention à supprimer tous les textes antisémites, eh bien en 1944-1945, à la Libération, l'ordonnance de Pétain est intégrée naturellement, sans retouche, dans le code pénal et devient l'article 331.3 de ce code, donc qui pénalise les actes homosexuels sous différentes formes, notamment bien sûr avec un mineur, et à l'époque un mineur c'est moins de 21 ans, quand même emprisonnement de 6 mois à 3 ans, mais aussi sous beaucoup d'autres formes, des interdictions de danser pour les hommes entre eux, des interdictions de par exemple, deux mineurs qui auraient des actes homosexuels entre eux peuvent être inculpés pour coups et blessures réciproques, etc.
Et puis on a d'autres questions des mineurs que se nouent à la fin des années Giscard d'Estaing, juste avant le retour de la gauche au pouvoir, les années 80.
Alors effectivement, il y a d'autres étapes. En 60, il y a un amendement qui reprend ces questions. En 74, la majorité passe à 18 ans, donc quand même la majorité sexuelle passe à 18 ans, y compris pour les homosexuels. En revanche, en 1980, on a à nouveau une pénalité qui arrive avec un amendement de Jean Foyer qui veut maintenir le délit d'homosexualité qui est accepté, contre lequel à l'époque un certain Raymond Forny était monté à la tribune. C'était un jeune député qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale.
Il faut aussi parler du problème de l'homosexualité. Dure loi pour les homosexuels, ces hommes qui s'aiment. Dure loi qui les conduisit sous le triangle rose jusqu'au camp de la mort de l'Allemagne nazie. Rude loi pour ceux qui en butent aux brimades, aux railleries, à la haine n'ont pas la chance de s'appeler Chazot, Perfite ou Cocteau. C'est l'égoïsme, la bêtise et la haine qui créent les ghettos, disait Jean-Louis Bory. Les homosexuels y sont enfermés depuis longtemps. Puisse notre réflexion, notre débat les en faire sortir.
Comme toujours, les scandales sont révélateurs de l'état d'une sensibilité, de l'état d'une situation, d'une civilisation à un moment donné à l'égard de l'homosexualité. Et Florence Tamay, vous en évoquez plusieurs. Bornons-nous au scandale d'Oscar Wilde et un scandale allemand.
Oui, ben, le scandale qui entoure la personnalité d'Oscar Wilde a été l'un des plus importants au tournant du siècle. En fait, bon, la personnalité d'Oscar Wilde était assez controversée. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est Oscar Wilde lui-même qui déclenche la série de procès qui va le conduire à sa perte. En 1895, quand il accuse le marquis de Queensberry de l'avoir traité de sodomite. Et donc il attaque le marquis, qui est le père de Lord Alfred Douglas, son ami, en diffamation. Et le procès tourne très mal, puisque de jeunes prostituées sont appelées à témoigner contre Wilde, et Wilde perd son procès. Par contre, deux autres procès vont s'ouvrir. Cette fois-ci, Wilde est l'accusé. On l'accuse notamment d'outrage aux mœurs. Et bien que Wilde prononce un discours très célèbre sur l'amour qui n'ose pas dire son nom et qui est d'une certaine façon la première prise de parole publique.
Un manifeste.
Voilà, un manifeste de défense des homosexuels en Angleterre. Wilde est condamné à 2 ans de prison et il ne se remettra jamais de cette condamnation.
Ah, c'est un grand événement en Europe, en France, on y prête beaucoup d'attention.
C'est un grand événement.
Qu'est-ce que nous dit ce scandale?
Finalement, deux choses. C'est d'abord la révélation de l'existence d'une communauté homosexuelle en formation en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a découvert les réseaux de prostitution qui existent dans l'Angleterre victorienne. Et pour beaucoup d'homosexuels, finalement, c'est la découverte qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des personnalités comme eux qui sont homosexuels. En France, ce que l'on voit bien, c'est que parmi, par exemple, le salon de la princesse de Polignac, qui reçoit de nombreux homosexuels...
Vinaretta Singer, c'est la fille du fabricant des machines à coudre.
Oui.
C'est l'époque où il y avait ces mariages entre des descendants de riches américains et de princes français. Vinaretta Singer. Oui,
voilà, et dans son salon, elle reçoit Proust, Montesquieu, de nombreuses lesbiennes parisiennes. Et le procès d'Oscar Wilde est un choc dans ce milieu intellectuel relativement protégé. Et on constate que Paul Bourget, par exemple, à partir du scandale, va renier son homosexualité, se rapprocher du nationalisme barésien. Il y a véritablement une peur en Europe. Et cette peur va être très amplifiée par le scandale Eulenburg qui éclate en 1907.
Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est moins connu.
Eh bien, en fait, bon, cette affaire est assez complexe puisque... Elle montre bien les liens qui peuvent exister entre homosexualité et politique. Tout démarre dans l'entourage du Kaiser, donc Guillaume II, par des révélations qui paraissent dans la presse. Un journaliste, Maximilien Harden, accuse l'un des conseillers de Guillaume II, Philippe von Eulenburg, et le commandant militaire de Berlin, Kuno von Moltke, d'être homosexuel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette accusation a peu à voir finalement avec l'homosexualité des deux relations de Guillaume II. Eulenburg est un diplomate favorable au rapprochement avec la France. On est dans le contexte de la crise marocaine. Et c'est un moyen finalement d'attaquer certains partisans du rapprochement avec la France.
Et d'ailleurs, c'était très observé en France. Je vais vous faire entendre un curieux document. C'est une chanson de 1908 de Jean P.E., qui s'appelle le scandale teuton.
Il y avait une fois de bons Allemands, il y avait une fois de bons Allemands, gens de la haute et princes du sang, gens de la haute et princes du sang, qui ne sachant plus comment faire pour arriver à se distraire, conçurent le doux projet, s'amuser entre les oreilles. Ils s'amusaient, on ne peut mieux, ils s'amusaient, on ne peut mieux, quand un beau jour un journaleux, quand un beau jour un journaleux, malheureusement troubla la fête, et d'une petite tape, une tapette, à leur porte, toc toc, il dérangea leur paille vocloque. Furieux se fait très mécontent, furieux se fait très mécontent, ils demandèrent des dédommagements, ils demandèrent des dédommagements aux pauvres journalistes qui de suite devant le tribunal de Moabit dû comparaître en retard pour avoir mis son nez quelque part. Mais le journaliste n'est malin, mais le journaliste n'est malin, se dit y a des justes à Berlin, se dit y a des justes à Berlin, et devant 200 craintes du scandale, s'écria je veux pas faire de morale, mais je vous jure sans détour, ces messieurs prennent les choses à rebours. Brisez gaiement son avocat, brisez gaiment son avocat. Dis messieurs mon client tata, dis messieurs mon client tata, ta gueule lui crie, y a ton de la salle, et pour étouffer ce scandale, à l'unanimité, le journaliste fut acquitté. Conclusion, la prouve qu'en Allemagne comme partout, la prouve qu'en Allemagne comme partout, qu'on s'appelle comme oeil fou du mot, qu'on s'appelle comme oeil fou du mot. Quand on donne une fête dans le programme, faut pas oublier de mettre les femmes, car le sexe féminin est le complément du masculin.
C'est le scandale teuton de Jean P.E. 1908, passant sur la vulgarité de cette homophobie grasseyante, Florence Tamagne. Voyons ce que cette chanson nous dit sur ce scandale Limbourg.
Eh bien, finalement, la chanson reprend certains éléments du procès, c'est-à-dire que Eulenburg attaqua le journaliste, donc Arden, en diffamation, et que ce procès tourna extrêmement mal, et Arden fut acquitté. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les mouvements homosexuels ont essayé d'utiliser ce procès à leur avantage, et que la situation s'est au contraire aggravée. Adolf Brandt, qui était le leader d'un des mouvements homosexuels, la communauté des spéciaux, a cherché à utiliser ce procès pour faire un outing avant la lettre.
Outing, c'est-à-dire révéler l'homosexualité de quelqu'un de quelqu'un à son insu.
Et notamment, il accuse le chancelier du Reich, von Bülow, qui est membre du Centrum, c'est-à-dire du Parti catholique, d'être homosexuel.
C'est outing qui a créé un vrai débat récemment lorsque certains mouvements homosexuels ont pensé révéler l'homosexualité prétendue d'un député qui s'est manifesté contre leurs efforts politiques.
Oui, et Brandt est véritablement un précurseur. Et là, cette volonté de montrer finalement que des personnalités de haut rang sont homosexuelles, va tourner au désastre. Magnus Hirschfeld, qui est l'autre leader d'un mouvement, le WHK, lui témoigne au contraire que Moltke peut être considéré comme un homosexuel. Et Hirschfeld est juif, homosexuel lui-même. Et finalement, dans l'opinion publique, tout cela va aboutir à une véritable confusion.
Vous dire qu'il y a une rencontre entre l'homophobie et l'antisémitisme.
Et ce que l'on constate, c'est que les manifestations homophobes de l'époque utilisent des slogans également antisémites, antiféministes, antimodernistes.
Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric Martel, de cette rencontre? Est-ce qu'on la trouve à d'autres périodes?
Oui, on la retrouve à de nombreux moments. Il y a un scandale qui est assez proche, enfin tout est relatif, mais c'est vous souvenez sans doute de l'affaire des fuites qui est une
histoire de la 4e République.
Voilà, en 1954.
Voilà, ce qui s'est passé.
À l'époque, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur et dans une affaire complexe dont on va peut-être pas ici rappeler tous les détails, mais qui concerne notamment Pierre Mendès France,
président du Conseil, et la
question des communistes. On accuse en fait des collaborateurs du ministre de l'Intérieur de François Mitterrand d'avoir fait fuiter entre guillemets des documents au profit de l'Union soviétique. Et il se trouve que dans l'accusation publique à l'Assemblée nationale, il y a un débat notamment le 3 décembre 1954, et François Mitterrand est nommément attaqué est suspecté parce qu'il a certains de ses collaborateurs qui appartiennent, je cite, à la confrérie actuellement très à la mode des homosexuels, et leurs habitudes les rendent particulièrement vulnérables, je cite encore, dans les postes où vous, en l'occurrence, M. Mitterrand, les avait maintenus. Et François Mitterrand répond, cette réplique qui est peu connue, en 54, il dit « En ce qui concerne les mœurs que vous avez évoquées, si l'un des fonctionnaires placés sous mon autorité a un dossier douteux, je demande qu'on me le communique. Comment voulez-vous que j'accepte que soit ainsi diffamé, attaqué et décrié de hauts fonctionnaires ?»
Alors, venons-en au combat pour les Lumières, pour la tolérance. Vous avez déjà évoqué, Florence Tamagne, certains de ces militants de l'entre-deux-guerres ou d'avant 1914. Mais cette grande guerre, sans l'avoir joué un rôle.
Oui, on peut dire que la Première Guerre mondiale a agi comme un révélateur pour la libération des homosexuels.
Comment, en quoi?
Le front fut en quelque sorte une école de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'à la faveur ce qu'on appelle la fraternité des tranchées, des amitiés passionnées ont pu se développer, soit entre des officiers, des membres de la troupe, et que finalement l'homosexualité, qui était considérée comme quelque chose de monstrueux, voire d'impensable, s'est banalisée pendant la Première Guerre mondiale. Cela a eu aussi des conséquences après la guerre, en particulier sur les représentations, l'imaginaire homosexuel et la jeunesse sacrifiée sur les champs de bataille, les corps mutilés, vont conduire par la suite à une célébration du corps masculin, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Et par exemple, la figure du poète Rupert Brooke est tout à fait intéressante.
Anglais,
en effet. Rupert Brooke faisait partie d'un groupe qu'on appelait les néo-pagans et qui a beaucoup fait dans un cercle très restreint, bien sûr, élitiste, pour diffuser une idée de libération sexuelle avec le naturisme, par exemple, et également avec des liens avec le cercle de Bloomsbury. Et Rupert Brooke meurt sur le front en 1915 et son image va être diffusée par des photographies qui deviendront très célèbres et qui le célèbrent comme le plus beau jeune homme d'Angleterre.
Le groupe de Bloomsbury ?
Oui, donc le cercle de Bloomsbury, donc un groupe d'intellectuels de Cambridge, essentiellement autour de figures comme Virginia Woolf, E.M. Forster, Lytton Strachey.
Keynes n'est pas loin, qui est
Keynes
également homosexuel.
Keynes est très proche, en effet, de ce groupe. Et le cercle de Bloomsbury se singularise par sa très grande liberté de mœurs et sa faculté à discuter de l'homosexualité, là encore, très librement.
Frédéric Martel.
Oui, je sais pas, je serais un petit peu plus réservé. L'évidence avec la Première Guerre mondiale me paraît. Je pense que les rapports entre hommes, etc., sont assez complexes à analyser. La part de l'homosexualité, par exemple, on peut dire que beaucoup de relations homosexuelles existent parfois en prison ou dans des collèges, etc. Pour autant, est-ce de l'homosexualité ? Le débat serait un peu long et je suis un peu réservé sur ça. Alors, en revanche, ce qui est clair, et c'est là où son livre est important, c'est que la présence d'un certain nombre d'auteurs et de la littérature est très importante. Et là, on retrouve la question des ruptures et des continuités. Au fond, il y a une très grande continuité parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, dans les années 70, qui est-ce qu'on interviewe encore sur la question homosexuelle au dossier de l'écran de 75 ou au dossier de l'écran même qui ont lieu en 82, ce sont à nouveau des écrivains et assez peu des militants. Et en France, on n'a pas tellement de militants qui vont s'exprimer, y compris même dans des périodes plus récentes dont l'audience sera toujours très très marginale. Ce qui, en revanche, donc là il y a continuité, là où il y a rupture, c'est en revanche que les questions, au fond, ne sont plus du tout les mêmes. Quand vous avez Proust, qu'est-ce qui l'intéresse, au fond, c'est qui est-ce qui est homosexuel ? Et il répond au fond un petit peu, si on lit la recherche, au fond à la fin tout le monde est un peu homosexuel. Quand on regarde Gide, la question qui se pose c'est pourquoi ? Pourquoi je suis homosexuel, etc.
Oui, c'est Gaston Gallimard qui raconte que Gide aurait dit à Proust « Vous avez fait reculer la question de 50 ans » et que Proust aurait répondu « Pour moi, il n'y a pas de question, il n'y a que des personnages. »
Oui, et il a raison. Enfin, au fond, et c'est là aussi où j'ai une divergence souvent avec un certain nombre de militants, c'est que je pense qu'il faut un peu se méfier de juger le rôle d'un auteur en fonction d'une grille de lecture militante. Que Proust, Gide, Genet n'aient pas été des militants homosexuels, c'est pas notre problème, c'est pas le leur non plus. On leur demande pas, on les juge pas en fonction de cette grille de lecture-là. Je pense que leur parole est extrêmement importante. Gide, donc, je disais, poser la question du pourquoi. Après, on va poser d'autres questions. Par exemple, Kinsey, qui se met à comptabiliser le nombre homosexuel, pose la question du combien. Aujourd'hui, ces questions ne sont plus les nôtres. Aujourd'hui, on pose d'autres questions. Par exemple, on pose la question du comment. Comment on peut être heureux, comment on peut avoir des droits, comment on peut être accepté. Donc, c'est là où il y a eu à la fois des continuités, mais aussi des ruptures, puisque les questions ont fondamentalement changé.
Il reste qu'à lire Florence Tamagne, on a le sentiment d'une assez forte opposition dans l'entre-deux-guerres entre la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre. La France où les porte-paroles du combat contre l'homophobie sont en effet, comme vous le dites, des écrivains plutôt, et que l'organisation collective en Allemagne annonce déjà les combats des associations de notre période actuelle.
Oui, en effet, le WHK, par exemple, s'est fait connaître par une pétition qui est lancée en 1897 et que des personnalités très connues vont signer, comme Thomas Mann, comme Stefan Zweig, comme Émile Zola ou Tolstoï, par exemple. Et le WHK veut à la fois informer l'opinion publique sur l'homosexualité. Il joue le rôle d'un lobby auprès des députés, auprès du gouvernement, qu'il véritablement inonde de brochures, de pamphlets sur les origines de l'homosexualité, sur les homosexuels célèbres. Et le but du WHK, c'est l'abolition du fameux paragraphe 175.
Du code pénal allemand.
Du code pénal allemand. Et le WHK envisagera même de se constituer en parti politique. Bon, c'est un échec. Mais il va prendre des prises de position, en particulier en soutenant le SPD et le KPD, donc le Parti Socialiste et le Parti Communiste Allemand, qui avaient apporté leur soutien à l'abolition de la loi.
C'est plutôt en Allemagne qu'il faut aller chercher les antécédents par rapport au combat des associations des années récentes.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps, en France, les choses donc et les auteurs sont très opposés parce que au fond, par exemple, Gide déteste la conception de l'homosexualité de Proust, Cocteau déteste celle de Gide. Donc, on a une très grande divergence. Et quelle est la clé de ça? Au fond, les écrivains disent que c'est par la singularité et par leur parole, je dirais, autonome, libre, parfois même, on peut évidemment ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est par ce particulier qu'ils atteignent l'intérêt général. Et ça, c'est un peu la logique d'André Gide.
Mais alors justement, la logique d'André Gide, il faut qu'on l'entende, parce qu'il nous montre bien comment il y a une lutte plus morale que sociale. C'est Jean Amrouche qui l'interroge à propos du scandale de Corydon, ce livre de 1924 qui est resté célèbre.
Courageux
dans l'histoire de l'homosexualité et de ses combats.
Je suppose que dans votre entourage et dans votre propre famille, on n'a pas manqué de faire pression sur vous pour vous empêcher de divulguer cet ouvrage.
Il y a eu non seulement une pression, je peux préciser, une pression par exemple de mon beau-frère qui était consterné par mon projet et qui l'a retardé de toutes ses forces. C'est à cause de cela que, perdant de vue Corydon, j'ai écrit, qu'est-ce que c'était? C'était Isabelle que j'ai écrit.
Isabelle, oui.
Voilà, c'est le seul de mes livres qui ne soit pas né, je peux dire, spontanément de moi, et que j'ai écrit, non pas précisément par devoir, mais par diversion, si je peux dire. Il y eut ensuite une autre personne qui, sachant mon intention de publier ce livre, vint me trouver en me suppliant de n'en rien faire, c'était Marite.
Oui.
J'ai raconté dans mon journal la visite que me fit Maritain, me suppliant, n'est-ce pas, de ne pas publier ce livre. J'ai cru ne pas pouvoir, ne pas devoir tenir compte de son, de son objurgation.
Mais est-ce que vous pensiez devoir publier ce livre, comment dirais-je, par l'effet d'une espèce d'obligation sociale pour jeter le poids de votre autorité dans une question très controversée, ou bien était-ce par devoir vis-à-vis de vous-même, pour être fidèle à votre vérité?
C'est extrêmement difficile de répondre, n'est-ce pas? Le sentiment social s'est développé peu à peu en moi. À ce moment-là, le mot de obligation morale conviendrait bien davantage. Autrement dit, ça répondrait davantage au besoin de ne pas me trahir moi-même. À ce moment-là, je pouvais me croire très... Y a-t-il de l'orgueil à dire cela? Je ne crois pas. Très particulièrement désigné par Dieu, n'est-ce pas, pour écrire ce livre.
Vous sentiez en vous
sentiez
comme
une obligation. Une mission, une obligation d'écrire cela, en me disant, pour ce livre en particulier, si ce n'est pas toi qui l'écris, qui l'écrira.
André Gide, s'entretenant avec Jean Amrouche en 1949, on voit bien l'opposition entre la préoccupation morale et la préoccupation sociale.
Oui, bon, il est clair que Corydon est un des livres majeurs sur l'homosexualité en France avec Sodome et Gomorre de Proust.
Rappelez-nous ce qu'était Corydon.
Oui, donc Corydon se compose de quatre dialogues qui opposent le docteur Corydon à un visiteur hétérosexuel qui joue les Candides. Et les deux premiers dialogues discutent de l'homosexualité dans la nature, ce que l'on retrouve dans la plupart des ouvrages de l'époque. alors que les deux suivants s'interrogent sur les conséquences sociales de l'homosexualité. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un livre très neuf en France, mais à l'échelle européenne, c'est un livre qui paraît déjà daté. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les écrits sur la question sont bien supérieurs. Bon, J décrit là un ouvrage très courageux, c'est indéniable. Ce qu'il est intéressant de voir, cependant, c'est qu'il limite sa défense de l'homosexualité à la défense de la pédérastie, qui l'intéresse tout particulièrement. C'est-à-dire qu'il inscrit la défense de l'homosexualité dans une tradition qui remonterait à l'Antiquité, une tradition élitiste, et finalement, il fait de l'homosexualité un trait particulier de l'artiste, de l'esthète. Et véritablement, cette singularité ne peut guère prétendre représenter tous les homosexuels de l'époque. Et Gide se pose là, finalement, comme un homosexuel, un artiste supérieur, et il n'a pas véritablement de traits communs avec les homosexuels de la rue de Lappe, tous ceux, finalement, qui vivent leur vie quotidienne, parfois dans le danger, souvent dans l'anonymat.
La rue de Lappe ?
La rue de Lappe, à la Bastille, c'est là
où on sort dans les milieux populaires.
Exactement, où les matelots en goguette viennent draguer
les Jésus-Lacaze, les Jésus-Lacaze locaux.
Voilà, parisiens.
Ce qui nous conduit tout directement à cette opposition si marquée dans les années 20, et peut-être encore aujourd'hui, mais Frédéric Martel va nous le dire, entre une certaine élite, une certaine façon de vivre à Paris, son homosexualité et la difficulté souvent en province de pouvoir l'affirmer, même quand on le souhaite. C'est Frédéric Martel.
Oui, d'abord juste un mot sur Gide. Je pense que déjà, ce que son seul nom apporte à la cause est absolument considérable. Par ailleurs, Gide et l'homosexualité ne se résument pas à Corydon. Il y a d'abord un roman qui s'appelle Les Faux Monnayeurs, qui joue un rôle majeur. Il y a un journal absolument formidable. Un roman notamment aussi autobiographique qui s'appelle Si le grain ne meurt. Tout ça pour dire qu'au fond, la conception de Gide n'est pas limitée à la pédérastie. En plus, vous connaissez la différence. Il oppose trois modèles, la pédérastie, l'inverti et puis le sodomite. Donc disons un peu l'homosexuel, on dirait aujourd'hui actif, l'homosexuel passif et l'homosexuel qui aime sinon les jeunes, du moins les jeunes plus jeunes que lui. Enfin voilà. Donc son sujet est beaucoup plus large. Et ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, on a là l'idée que la littérature héberge dans ces années très fortement le militantisme homosexuel. Ça, c'est sans doute effectivement une singularité française. Par ailleurs, pour les gens, la fiction est un genre très intéressant parce que elle est à la fois un refuge, elle est à la fois un abri, mais elle permet aussi de dire beaucoup. Elle permet de dire des choses secrètes, marginales, mais aussi des formes de révolte, etc. Ce qui fait qu'on a une vraie, entre guillemets, et beaucoup de guillemets il faut utiliser lorsqu'on parle de ces sujets, une vraie éducation homosexuelle à partir de la littérature. Et là, à nouveau, on retrouve l'idée des continuités, des ruptures, parce que si on prend quatre auteurs, on peut en prendre d'autres, mais qui seraient Genet, Gide, Proust et Cocteau, par exemple, oui. Ces quatre auteurs, on les retrouve aujourd'hui, c'est des filiations complètes, et par exemple, prenons le seul cas de Jean Genet, dont Florence parle peu parce que c'est un peu après sa période, mais Jean Genet, à travers ses quatre livres de 46 à 49, qui sont essentiellement, disons, Notre-Dame des Fleurs, le journal du voleur et Miracle de la Rose, eh bien, c'est une filiation qui nous mène après à Pasolini, le Pasolini d'Osti, ça nous mène au Guillaume Kengem du désir homosexuel, ça nous mène au Droit du plus fort de Fassbinder, au Chéreau de l'homme blessé, ou au Bernard-Marie Coltès de La solitude des champs de coton. Donc, on a des filiations qui sont extrêmement importantes, des continuités sur la durée, et je pense que c'est aussi important que des associations homosexuelles qu'on a pu avoir, qui sans doute ont joué un rôle, mais qui restaient marginales, alors qu'on a là toute une filiation intellectuelle qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui.
Le teint pâle et de grands yeux noirs, et les lèvres d'un rouge écarlate, les cheveux bien coupés au rasoir, une gorge plate, comme corsage et le porte un veston, un chapeau de feutre en forme de pomme, sa jupe colle comme un pantalon, elle a tout de l'homme, la
garçonne, la garçonne se donne l'allure d'un garçon. Et le crâne porte une canne, affecte des petits airs sans façon. C'est Gisèle qu'elle s'appelle, mais elle se fait appeler Lucien. Elle croit, ça c'est certain, être du sexe masculin, la garçonne. Le soir, elle fréquente tous les grands bars, et très jeune, elle est déjà précoce. Elle fait la bombe avec les fêtards, c'est toujours la noce. Accoudée au comptoir, l'air hardi, prenant des attitudes bizarres, elle boit des cocktails, des whisky, et fume le cigare. La
garçonne de Georgel, un enregistrement du 6 juin 1923. La garçonne, ça émerge dans l'attention publique. C'est un personnage mythique, Florence Tamagne.
Oui, bien sûr. Bon, il y a d'abord le roman de Victor Marguerite, bien sûr, qui a connu un succès de scandale. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la garçonne, c'est la figure que l'on peut avoir de la lesbienne dans les années 20, mais la garçonne, en tant que telle, n'est pas lesbienne. Simplement, elle se donne des poses masculines. Les lesbiennes telles que Radcliffe Hall, qui est l'auteur du roman Le Puits de Solitude en 1928 et qui va véritablement être un best-seller lesbien, adoptent certains traits de la mode de l'époque, les cheveux rasés, le costume d'homme.
La chanson traduite.
Voilà, exactement, la canne, le cigare, qui vont beaucoup marquer les esprits. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que c'est à cette époque-là qu'émerge la figure de la butch, c'est-à-dire de la lesbienne masculine. Mais toutes les lesbiennes ne se reconnaissent pas dans ce modèle. En France, autour du cercle de Nathalie Barnet, on préfère au contraire une mode très féminine, les cheveux longs.
Rue Jacob.
Voilà, Rue Jacob. Exactement. Et les références à un modèle grec, à un modèle saphique, qui est bien incarné par René Vivien, la muse aux violettes, par exemple. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la question de l'homosexualité féminine est tout à fait à part à l'époque. En particulier, on peut constater une plus grande tolérance, si l'on compare bien sûr au sort des homosexuels masculins. Et les législations européennes ne condamnent pas le lesbianisme. Par contre, il faut être très prudent. Il y a eu des lois en 1909 en Allemagne, en 1921 en Angleterre, qui ont envisagé de condamner les pratiques lesbiennes. Et si elles ont été abandonnées, ce n'est pas parce que l'on considère finalement que l'homosexualité féminine est tolérable, mais plutôt pour des raisons très masculines. Soit le lesbianisme n'existe pas, ce qui revient très fréquemment, soit l'on a peur, en faisant une loi, d'informer les femmes sur l'existence de telles pratiques, soit tout simplement on considère que la pression sociale est suffisamment forte pour faire revenir les femmes dans le droit chemin et donc les contraindre au mariage.
Donc deux homophobies vraiment différentes. Mais est-ce que du coup, ça a conduit au moment des combats militants, l'homosexualité féminine, l'homosexualité masculine à se séparer ou au contraire à joindre leurs efforts?
Eh bien, on constate en fait que les lesbiennes sont prises entre deux camps. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le camp féministe et un certain nombre de leaders féministes de l'époque sont lesbiennes, mais refusent de prendre en compte les revendications lesbiennes parce qu'elles considèrent que cela peut discréditer la cause. Et il y a toutes sortes de pamphlets qui accusent le mouvement féministe d'être le cheval de Troie des lesbiennes. De l'autre côté, les mouvements homosexuels sont pour beaucoup d'entre eux tout à fait anti-féministes et anti-lesbiens et refusent d'intégrer les femmes à leurs revendications.
La misogynie.
Il y a une certaine misogynie. Et les lesbiennes n'ont pu s'exprimer finalement qu'à l'intérieur de mouvements masculins qui ne leur laissaient que la portion congrue. Et on voit bien en Allemagne que le journal lesbien, bon, le plus connu, qui s'appelait Die Freundin, l'ami, est dirigé par un homme, ce qui est quand même paradoxal.
Alors si on compare avec les années récentes, Frédéric Martel.
Oui, alors au niveau de la concordance des temps, ce débat se repose. Au fond, dans les années d'après 68, pour une lesbienne, il y a une tension qui existe entre est-ce qu'elle est d'abord femme ou est-ce qu'elle est d'abord homosexuelle. Et ce débat sera très récurrent au sein du mouvement des femmes, du MLF, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est au sein du MLF que naît le mouvement homosexuel masculin en 1970-71 en France. C'est en son sein que le phare apparaît et c'est des féministes féministes qui sont les premières à faire des manifestations, donc c'est très important. Et en même temps, cette proximité et cette association des hommes et des femmes aura aussi comme conséquence d'abord que les thèmes et les modes d'action seront très proches, et ensuite que du coup le mouvement lesbien va avoir du mal à apparaître en France et à être indépendant du mouvement des femmes, et va au fond pas vraiment exister dans les années 70 et 80 en France. Ce d'autant plus que là encore on a eu une très forte rupture, puisque c'est quoi le premier grand slogan des féministes? C'est libération des femmes année zéro, c'est-à-dire qu'au fond elles sont des néo-féministes, il y a une histoire avant elles, mais en même temps c'est une révolte sans référence et elles ne se reconnaissent au fond aucun prédécesseur à nouveau avant elle. Et donc on a à nouveau une rupture très forte entre une renaissance, et pourquoi on peut parler de néo-féministe, avec là la question homosexuelle qui est une des questions centrales sans doute du MLF à cette époque.
À côté de cette opposition entre les hommes et les femmes, il faut en marquer une autre et y réfléchir. C'est l'opposition entre d'un côté les élites et le peuple, et de l'autre Paris, la capitale, les capitales, Berlin aussi, et la province. À cet égard, je voudrais qu'on écoute Jean-Louis Bory, qui en parle très bien, en 1976.
Jean-Louis Bory, Tous nés d'une femme, un roman qui constitue le deuxième volet d'une série de trois dont le titre général est La peau des zèbres. Qu'est-ce qu'un zèbre ?
Oh, je serais tenté de vous dire que c'est un cheval en pyjama. Mais c'est surtout, justement, dans une société de cheval, c'est celui qui n'est pas tout à fait cheval. C'est-à-dire qui n'est pas exactement comme les autres. L'objet général de cette trilogie, c'est de montrer que dans le milieu marginal, soyons clairs, dit homosexuel, les drames de la jalousie, du désir, même des tentatives de conjugalité, je ne voudrais pas que ceci prête à rire, eh bien, sont exactement semblables. Alors, dans ce deuxième volume, justement, c'est que mon héros, mon personnage, qui n'est pas tout à fait moi, mais qui est moi, enfin bref, selon l'habitude qu'ont les romanciers d'utiliser leur expérience personnelle, est d'autant plus personnel qu'il s'agit d'une expérience intime et privée qui est la tentative de vivre sa vie sexuelle le plus librement possible à l'intérieur d'une société qui, bien qu'elle ait beaucoup évolué sur ce plan-là, conserve encore tout de même pas mal de préjugés sur la question. Et j'aimerais qu'au terme de ces trois volumes, le troisième volume paraîtra dans 2 ou 3 ans, justement, les lecteurs qui m'auraient fait assez de confiance et d'amitié pour me suivre jusque-là, n'aient plus concernant tous ces problèmes des idées toutes préconçues qui tiennent à un conditionnement social qu'ils subissent depuis la plus tendre enfance et que je juge non seulement stupide, mais criminel.
Un peu plus de compréhension, de tolérance, et d'amitié peut-être pour les homosexuels.
Oui, c'est ça. Et surtout qu'on n'ait pas l'habitude de les juger, soit par le biais du ridicule, de tas de choses qui sont humiliantes, et je ne parle pas pour moi parce que je m'en fous intégralement, et puis que j'ai la possibilité justement de m'exprimer à ce micro, et que je suis donc un notable, donc quelqu'un qui est protégé par sa notoriété, mais je parle au nom de tous ceux que je connais parce qu'ils m'écrivent, et dont la vie est très exactement, surtout en province, un enfer.
Un pareil roman aurait-il été publié il y a quelques décennies ?
Non. J'aurais publié ce livre-là il y a 10 ans, mais sous le manteau. Tandis que maintenant, je peux le publier tout à fait ouvertement et je peux en venir discuter, par exemple, à votre micro.
Est-ce que les homosexuels appartiennent toujours à la tribu damnée dont parlait Marcel Proust ?
Ça dépend naturellement des cas. En province, oui. Dans certaines classes sociales, notamment les classes populaires, oui. Ce qu'on appelle le peuple, les classes populaires ont concernant l'homosexualité, des positions qui sont beaucoup plus rigoureuses et hostiles que les classes dites bourgeoises. J'en suis, moi, personnellement, profondément peiné, parce que j'aimerais justement que ce soit ces gens-là, précisément, qui fassent un effort de compréhension.
Jean-Louis Bory, 1976, qui met bien en valeur cette opposition par les provinces, et aussi cette opposition entre les élites, entre guillemets, et les classes populaires. On a toujours cité le mot fameux de mai 71, le 1er mai 71, lorsque des homosexuels avaient défilé pour la première fois en tant que tels dans les rues de Paris, et que des militants du Parti communiste s'étaient retournés offusqués.
En disant, tradition étrangère, la classe ouvrière.
Oui, Frédéric Martel.
Et ce témoignage de Jean-Louis Bory est d'abord très touchant, parce que cet homme qui parle, là, qui a un parcours extrêmement solitaire, Jean-Louis Bory, ce sera quelqu'un d'absolument, iconoclaste, solitaire, et qui va mener un combat pratiquement constant pendant des années sur cette question, avec la priorité tout le temps de parler effectivement de l'anonyme, du jeune qui vient de lui écrire. Et en même temps, ce défenseur un peu acharné du droit à la différence, à l'intérêt l'indifférence, pardon, c'est le premier à adapter un peu et à employer cette expression pour l'homosexualité. Elle existait bien sûr avant lui. Et en même temps, quelqu'un qui se suicidera simplement 3 ans après le témoignage qu'on vient d'entendre, faute sans doute d'avoir réussi à trouver exactement sa place dans notre société.
Et un autre thème que je trouve intéressant et qui rebondit entre vos deux périodes, c'est le thème des relations entre, je dirais, médecine et homosexualité. D'abord, la longue période où on a considéré que c'était une maladie chez les âmes bien pensantes. Puis ensuite, le retour de la maladie avec le sida, Florence Tamagne.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que les rapports entre les homosexuels et les médecins ont beaucoup évolué.
Oui.
À la fin du 19e siècle, le médecin est plutôt au service de l'homosexuel, même si on peut avoir une vision très différente aujourd'hui. Et le psychiatre conceptualise l'homosexuel au même titre que la femme hystérique, que l'enfant masturbateur. Et ce que l'on voit bien, c'est que les homosexuels ont bâti leur identité en partie à partir du modèle médical qui se développe dans les années 1890.
Donc ils l'ont accepté en quelque sorte, ils ne l'ont pas rejeté au début.
Ils l'ont accepté, soit le modèle de l'homosexualité innée, ce que Magnus Hirschfeld appelle le troisième sexe, c'est-à-dire que l'homosexuel aurait une âme de femme prisonnière dans un corps d'homme, soit également la psychanalyse qui aura une influence déterminante, Gide, que l'on a entendu tout à l'heure, a véritablement étudié la psychanalyse et a trouvé qu'elle était pour lui une aide à sa propre compréhension.
Ce qui est frappant en même temps, c'est que lorsque la radio et la télévision, dans les années 60-70, commencent à parler du problème, comme on dit, homosexuel, ils le font sous l'angle médical et que c'est naturellement rejeté par les militants à l'époque, Frédéric Martel.
Oui, c'est, par exemple, au dossier de l'écran en janvier 75, on invite Jean-Louis Bory, justement, Yves Navarre, Roger Perfitte, le fameux député Paul Mirguet dont on parlait tout à l'heure parce qu'il a repénalisé d'une certaine manière l'homosexualité. Mais on invite aussi deux médecins, un endocrinologue et un neuropsychiatre, qui se comportent de manière très, enfin, comme on peut l'attendre. Alors cela peu à peu disparaissent, ce qui fait que d'ailleurs dans l'autre émission des dossiers de l'écran, puisqu'il y en a deux fameuses, celle du 4 septembre 84, eh bien, il y a un seul médecin qui s'appelle Didier Seux et qui est là, est devenu un psychanalyste, mais très gay-friendly, si on peut dire, puisque il est favorable d'autant plus aux homos qu'il est lui-même militant homosexuel. Et alors, en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que cette méfiance à l'égard de la médecine va jouer, je dirais, un drôle de tour qui n'est pas drôle du tout, puisque
avec
au fond,
sida, avec l'arrivée du sida.
J'ai retrouvé une interview de Guy Hockenheim, qui est le principal militant homosexuel des années 70. Et il a cette phrase très très touchante, à l'été 81, il dit « Il n'y a qu'un seul acquis du mouvement homosexuel, un seul acquis qu'on ait encore aujourd'hui, c'est la défiance vis-à-vis de la médecine, je n'en vois guère d'autres. » Et c'est ce qui explique sans doute qu'entre 81 et 84, les militants homosexuels, pour des raisons qu'on peut comprendre, ont douté de ce que les médecins venaient leur dire, ce d'autant plus que les médecins n'étaient pas très très au clair avec tout ça aussi. Et ce qui fait que, au fond, la médecine, depuis des années, leur expliquait, voulait les envoyer à l'hôpital, etc. Et là, on leur dit, voilà, vous avez une maladie qui ne concerne que les homosexuels. On peut comprendre ce grand éclat de rire de Michel Foucault en disant, si c'était vrai, une maladie qui toucherait uniquement les homosexuels, ça serait à mourir de rire. Et Foucault s'effondre, éclate de rire, ce que rapporte Hervé Guibert dans son livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Malheureusement, tout ça va être des faits.
Je voudrais que nous terminions à ce propos sur la notion d'identité homosexuelle. Au fond, nous avons été très frappés au cours de cette conversation par l'opposition entre la lutte des individus à dominante morale et la lutte collective. Et quand on parle de collectivité, on se pose forcément ce problème de la communauté homosexuelle. Votre livre, Frédéric Martel, a été reçu fort bien par la presse généraliste et de façon beaucoup plus contrastée par la presse homosexuelle, où beaucoup vous ont reproché avec violence d'avoir pris du recul par rapport à la notion de communauté homosexuelle. Je voudrais qu'on rapproche à cet égard la période de l'entre-deux-guerres et la période récente. Est-ce qu'on a une idée dans les années 20 d'une communauté homosexuelle ?
On commence à en parler essentiellement en Allemagne. On ne retrouve pas véritablement ni le terme, ni la réalité d'une communauté en Angleterre ou en France. On parlerait plutôt de réseau intellectuel, mais pas de communauté homosexuelle qui impliquerait justement que les homosexuels de province partagent cette réalité, ce qui n'est pas le cas.
Alors que dans la France récente, et encore une fois, l'accueil fait à votre livre, Frédéric Martel, en témoigne, cette question peut apparaître comme une des déclinaisons de la grande affaire de l'opposition entre le communautarisme et la République, pour forcer le trait. Qu'est-ce que vous en diriez pour conclure ?
Je dirais d'abord qu'à nouveau, on voit là, et la persistance de ce thème entre nos deux livres, entre Florence et moi, est intéressante, puisque là encore, on a un éternel recommencement. Au fond, l'homosexualité, c'est quoi ? C'est d'abord une rupture avec la transmission familiale. Et donc, c'est une histoire qui n'est pas écrite, qui ne s'écrit pas. C'est une histoire qui est écrite sur du sable. Et donc, qui constamment revient, repart, se réinterprète, etc. Et on a eu, tout au long de... dans le livre de Florence, dans les années 20 et 30, dans ce livre thèse très, très riche, ou dans le mien, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80...
Également très riche.
On retrouve ces mêmes thèmes. Alors, en même temps, je pense qu'il faut se méfier parce que l'homosexualité est vécue par beaucoup comme un destin et par certains seulement comme un choix. Donc on ne doit pas limiter cette interprétation à la question du choix, puisque pour beaucoup, c'est d'abord une chose qui ne les concerne pas comme un choix, mais ils ont dû peu à peu y vivre avec. Donc, cette espèce de débat sur la communauté qu'il ne faut pas caricaturer, et sans doute, il faut être très très prudent lorsqu'on emploie ces mots, il y a différents niveaux qu'on peut voir par rapport à ce point-là. Disons, pour aller vite, il y a un niveau sur lequel il n'y a pas de débat, c'est l'idée que les homosexuels entre eux sont liés par cette idée du destin, c'est un peu flou, mais en même temps, il y a une conscience commune liée à un certain nombre de discriminations, d'expériences, le sida en est une, et un certain nombre d'éléments littéraires ou autres peuvent rentrer et vous relier aux autres.
Deuxième
il y a un
niveau
un peu plus élevé, ça serait lorsque vous, l'idée d'une vraie communauté de fait, avec l'idée d'existence de bars, l'existence de codes vestimentaires, aujourd'hui on dirait de sites internet, etc., qui vous relient de manière un petit peu plus... donc pas simplement une communauté en soi, mais une communauté de fait.
De référence culturelle aussi.
De référence culturelle également. Et puis il y a un troisième niveau, qui est d'ailleurs celui qui est peut-être le plus discutable et sur lequel il peut y avoir débat et où on n'est pas forcément en accord. C'est l'idée d'une communauté pour soi qui devient une communauté politique, avec la tentation de créer un mouvement, avec ce qui suppose un peu d'injonction, avec l'idée de avouer votre homosexualité, faites votre coming out, soyez fiers, etc. Ce qu'on peut contester parce que, après tout, les gens sont libres d'être fiers ou pas de ce qu'ils sont.
C'est ce qui est le plus contradictoire avec l'esprit de la République, en effet. Assigner à quelqu'un d'appartenir à une communauté à cause d'un des traits de sa personnalité, c'est quelque chose qui, effectivement, est contraire à beaucoup de traditions issues des Lumières. Je vous remercie.
Là c'est du Jean-Noël Jeannet.
Mais tout le monde avait reconnu que c'était moi qui parlais et pas vous. Je rappelle les titres de vos livres. Florence Tamagne, Histoire de l'homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, qui vient de paraître ce printemps dernier au Seuil. Frédéric Martel, Le Rose et le Noir, Les homosexuels en France depuis 1968, un ouvrage qui est paru en avril 1996 et que vous venez de rééditer en septembre 2000, avec une postface tout à fait intéressante qui est votre réflexion sur l'accueil fait à ce livre. André Gide était interviewé par Jean Imbrouche et on peut retrouver cette source dans une publication de l'INA et Radio France.
Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux les inconnus, sous leurs jupons empesés, mes rêves inapaisés glissent de sournois baisers vers leur peau nue.
C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau. Réalisation Patrick Molinier, prise de son Christian Fontaine. Documentation Yaël Mandelbaum, Eve Bonivard et Nathalie Rouvillain. Archivina, Anne Trifunovic.
Je me poutre sur leur flanc, ivre du parfum troublant, qui monte les ventres blancs vers mes narines. Douce, je promène ma main odeur du marbre humain, et j'y cherche le chemin où vont mes lèvres. Ma langue en fouille les plis et sur les torses polis, buvant les divins oublis, j'endors mes fièvres.
Cette émission a été diffusée la première fois le 2 décembre 2000 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Mm-hmm.